Manon Vautier-Cholet. Bonjour Manon.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une ce matin, les files d'attente qui ne cessent de s'allonger devant les pharmacies avec Noël et le Nouvel An. Ce sont des milliers de Français qui veulent se faire tester au Covid. On y revient après les autres titres, Manon.
Les fêtes qui ne sont pas toujours synonymes de repas en famille ou de cadeaux. Pour les personnes qui vivent à la rue, la solitude est encore plus grande dans ces moments-là. À Mont-de-Marsan, on verra qu'un accueil de jour leur réchauffe un peu le cœur. Changement de cap pour trois fédérations musulmanes ce week-end. Après avoir refusé, elles acceptent finalement de signer la charte des principes de l'islam de France, réclamée par l'exécutif, un appel à la fraternité. Et puis ces derniers jours, on a utilisé parfois plusieurs rouleaux de papier cadeau, sans parler des colis. Ces dernières années, la pénurie globale de papier profite aux exportateurs, on verra.
Et puis dans 20 minutes, notre invité, ce sera le sociologue Michel Wiewiórka pour son livre « Où va la France ? Métamorphose ou déchéance ?» Le livre paraît aux éditions Rutsen.
France Inter. 1 million, c'est le nombre de tests Covid réalisés avant le réveillon de Noël en France cette semaine. On pouvait s'attendre à une brève accalmie à partir d'aujourd'hui et jusqu'au Nouvel An, mais ça n'est visiblement pas le cas. En fait, c'est même le contraire, les pharmacies ne désemplissent pas. François-Xavier Legrand est allé faire la queue dans une officine parisienne.
Ils sont plusieurs dizaines à attendre devant le Barnum installé sur le trottoir de la pharmacie. L'officine a fermé ses portes pour se concentrer sur une seule activité, tester. Parmi les personnes présentes, il y a les non-vaccinés qui souhaitent se faire tester pour valider leur passe sanitaire. Mais pour la majorité, c'est pour s'assurer d'être bien négatif avant de rejoindre la famille.
On va rejoindre nos parents et les grands-parents. Donc on veut, malgré la troisième vaccin, on veut se faire tester. On préfère être prudent.
Dans la file, on trouve aussi plusieurs personnes cas contact.
Je suis vaccinée, moi, de toute façon. Mais je suis cas contact, donc je le fais. Voilà.
J'ai un fils qui vient d'être testé positif. Comme on habite tous ensemble, on se fait tester pour savoir si on est positif. Quoi.
Armand est l'un des deux testeurs de la pharmacie. Pour lui, la situation est sans précédent.
On a une affluence unique, on n'a jamais eu ça, c'était exceptionnel. C'est quand même fou de voir autant de monde un samedi, on n'a jamais eu ça. Si on veut calculer par rapport à la veille, on est largement au-dessus.
Le personnel de la pharmacie se prépare déjà à une nouvelle période d'affluence avant le 31 décembre.
Le nombre de tests, c'est notamment ce qui explique l'explosion du nombre de cas de coronavirus en France en ce moment. On a passé la barre des 100 000 cas en 24 heures. Ils entraînent des réactions en cascade au quotidien. Déjà, 6 000 vols ont été annulés dans le monde rien que ce week-end. Et puis, les arrêts de travail sont toujours plus nombreux, faisant craindre un blocage de l'économie. À la rentrée, le gouvernement reparle de tous ces sujets demain lors d'un nouveau conseil de défense sanitaire. En parlant de rentrée, faut-il reporter le retour en classe prévu ? Pour le moment, le 3 janvier, c'est en tout cas ce que demandent plusieurs soignants dans une tribune partagée dans le journal du dimanche aujourd'hui. Ils craignent pour la santé des enfants et des adolescents alors que les cas de coronavirus explosent, je le disais à l'instant. Ils déplorent le manque de moyens déployés par le ministère de l'Éducation nationale pour freiner l'épidémie. Et le retour à l'école est selon eux trop près des fêtes. L'autre conséquence du coronavirus, c'est son impact sur les personnes les plus précaires. Et les jeunes de moins de 35 ans ont été touchés de plein fouet par l'arrêt du marché du travail l'année dernière, causé par les derniers confinements. Certains ont perdu leur travail, se sont retrouvés à la rue. Alors à Mont-de-Marsan, l'accueil de jour ne ferme pas pendant les fêtes. Sophie Allemand y a rencontré un jeune SDF.
À l'entrée, il n'est pas écrit « accueil de jour » pour ne pas stigmatiser. Une porte aussi dure à passer qu'un premier appel au 115.
C'est dur de l'appeler la première fois et comme moi c'était une première. J'aurais jamais fait ça de moi-même, c'était vraiment mon collègue qui a pris l'initiative de le faire. Autrement, moi j'aurais jamais fait, j'aurais préféré me débrouiller.
Florian a 25 ans, de nombreuses galères l'ont mené jusqu'ici. Lui-même avait des préjugés.
Mais moi je ne pensais pas que c'était comme ça. Et au final, on s'est retrouvé dans un endroit ici, c'était vraiment très beau.
Vous imaginez ça comment ?
Cité, un immeuble avec plein de gens dedans et genre... L'anarchie.
Il vient pour manger ou gérer ses papiers avec un accompagnement.
L'aide quand t'es vraiment démuni, que tu descends tout en bas, c'est un bon point pour remonter au moins et avoir une bonne situation pour la suite. Ça m'a quand même bien aidé, quoi.
Ça fait du bien.
Ça fait du bien, ouais.
Difficile de chiffrer cette tendance, mais Samuel, travailleur social, voit plus de jeunes arriver à l'accueil de jour ces derniers temps.
Le Covid, je crois que ça a amené pas mal de jeunes dans une misère sociale, une misère psychique aussi, qui sont pas forcément des jeunes issus de la rue, entre guillemets, avec des parcours de rue de 2 ou 3 ans ou 5 ans ou 10 ans.
Ces jeunes se retrouve donc avec des personnes à la rue depuis longtemps, un mélange des populations qui n'est pas simple à gérer pour pour les travailleurs sociaux.
Le reportage de Sophie Allemand. En Birmanie, deux employés de l'ONG britannique Save the Children sont portés disparus. Ils rentraient chez eux après une mission humanitaire dans l'est du pays. C'est aussi à cet endroit que 30 corps calcinés ont été découverts dans des voitures. L'attaque est imputée à la junte militaire.
On vient d'en parler avant ce journal avec notre invité astrophysicien. C'est un vrai cadeau pour tous les passionnés de l'espace, ce télescope James Webb qui s'est envolé en direction de l'orbite solaire.
Et c'est un bijou technologique de 6 tonnes qui coûte près de 10 milliards d'euros. Il a donc commencé son voyage d'un mois après un décollage réussi depuis la Guyane. La participation d'Ariane Espace, entreprise française, à cet événement est une très bonne chose, hein, alors que la compétition fait rage, notamment avec SpaceX. Stéphane Israël, c'est le patron de l'entreprise française, espère bien avec tout ça taper dans l'œil de la NASA.
C'est pour Ariane Espace quelque chose de considérable. C'était un petit tout double, il faut le dire franchement. Et effectivement, le fait que Ariane Espace ait réalisé une mission aussi importante montre aux yeux du monde entier le professionnalisme de nos équipes dans un contexte de compétition très très forte, un moment extraordinaire. Et un grand moment de fierté, je veux dire, un moment de fierté pour nos équipes, un moment de fierté pour l'Europe. Il faut vraiment le savourer. C'est très important aussi pour la suite de nos relations avec la NASA. Il va y avoir le programme Artemis vers la Lune. Il y aura d'autres missions très importantes et on espère qu'on pourra continuer ces partenariats. Nous espérons effectivement qu'elle va se poursuivre et que le dialogue, l'histoire que nous avons commencé, en général quand les choses commencent bien, elles se poursuivent. Il y a quelque chose qui a magnifiquement commencé. C'était pas tout à fait une première pour nous. Hein. On avait lancé Topex Poséidon du CNES et de la NASA en 1992. Mais c'est vrai que ce que nous avons accompli aujourd'hui n'a pas d'équivalent dans le partenariat entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique.
Stéphane Israël au micro d'Hélène Chevalier. Trois signataires de plus pour la charte des principes de l'islam de France. Réclamée par le gouvernement depuis plus d'un an, cette charte a révélé des divisions au sein du Conseil français du culte musulman ces derniers mois. Sur les 8 fédérations qu'il compose, 3 refusaient de signer, dénonçant notamment un manque de concertation. Elles ont donc changé d'avis hier, Delphine Evenou.
C'est un acte solennel, un appel à la fraternité, expliquent les fédérations turques du Miligorus et du Comité de coordination des musulmans turcs de France, ainsi que le mouvement Foi et Pratique, une réponse au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui estimait il y a 15 jours que le CFCM était mort. Instrumentalisation de nos divergences, s'agacent les représentants de ces fédérations. Après un an de confrontation interne au sein du Conseil français du culte musulman, elles vont donc signer ce texte de 9 pages finalisées en janvier qui dénonce entre autres l'instrumentalisation politique de l'islam et proscrit l'ingérence d'États étrangers dans le culte en France. La charte doit ouvrir la voie à la création d'un Conseil national des imams qui vise, selon l'exécutif, à restructurer la deuxième religion de France. Un autre dossier épineux. Fin novembre, des fédérations qui ont fait scission avec le CFCM cette année ont déjà installé leur propre Conseil des imams.
Et les explications de Delphine Evenou.
À 92 ans, une Française s'apprête à témoigner devant une cour d'assises allemande.
Témoigner contre un ancien gardien du camp de concentration de Sachsenhausen. Il est jugé depuis le mois d'octobre pour complicité de meurtre de plus de 3500 prisonniers. Et parmi ses victimes, il y a donc le père de Rosemary, déporté dans ce camp suite à la rafle du Vieux-Port de Marseille. C'était le 24 janvier 1943, 20 000 personnes expulsées. La plupart des immigrés italiens. Plus de 800 ont donc été déportés en Allemagne. Rosemary et ses proches attendent de cette audience des réponses sur les derniers instants de la vie de son père, Mathilde Vinceneuf.
Dans ce marché du papier et du carton, l'élément qu'il faut savoir maîtriser, c'est la pâte de bois. Cette matière première qui s'exporte par cargo à travers le monde. Si la pénurie actuelle inquiète, elle est en revanche une bonne nouvelle pour la Suède et la Finlande. Ensemble,
c'est... Alors, ce n'est pas le bon reportage, on va le diffuser
voilà.
Dans une...
Vous entendiez évidemment parler de livres et de cartons, on vous en reparle dans un instant. Et là, nous parlions bien du reportage de Mathilde Vinceneux sur Rosemary, 92 ans, qui aimerait connaître les derniers instants de la vie de son père dans un camp de concentration.
Non. Eh bien, je crois qu'on l'écoutera dans une prochaine édition. Je demande au réalisateur derrière, est-ce que nous l'avons ? Eh bien, c'est parti.
La dernière fois que Rosemary a vu son père, elle avait 13 ans. Sa famille venait d'être expulsée et transférée dans un ancien camp militaire de Fréjus. Les hommes étaient séparés des femmes, mais son père lui faisait passer de la nourriture en secret.
Avant qu'il disparaisse de ma vue, il venait quand même tous les soirs nous porter quelque chose. Il prenait les piniers de pain, il les faisait griller et après il les décortiquait pour que moi je les fasse passer à mes sœurs. Et après, je ne l'ai plus revu. Je l'ai attendu, je l'attends encore.
Rosemary sait maintenant que son père était dans ce camp de Sachsenhausen en même temps que cet ancien gardien nazi. Ils se sont croisés, explique son fils Fernand. Il aimerait comprendre comment son grand-père est mort.
Est-ce qu'il est mort d'une maladie Il a été exécuté, on ne sait rien de tout ça.
La famille espère aussi que ce procès permettra de parler de la rafle du Vieux-Port. Une rafle méconnue et pourtant comparable à celle du Veldiv, assure l'avocat de la famille, Pascal Lungo.
L'événement majeur que représente la rafle du Vieux-Port doit être reconnu dans l'histoire, doit être enseigné. Et c'est le but, l'un des buts à atteindre de ce procès.
Un procès en Allemagne en parallèle d'une enquête ouverte en France par le parquet de Paris pour crime contre l'humanité.
Et c'était le reportage de Mathilde Vinceneux pour France Inter. Vous entendiez donc parler juste avant ce reportage de livres, de cartons ou encore de colis. Le point commun entre tout ça, c'est le papier, puisqu'en fait, nous en utilisons de plus en plus partout dans le monde et la pénurie est de plus en plus importante. Elle profite aux pays producteurs et aux exportateurs pendant que la situation pèse sur les consommateurs. Et puis, nous venons de l'apprendre, l'archevêque anglican sud-africain Desmond Tutu, icône de la lutte contre l'apartheid, prix Nobel de la paix, est décédé ce dimanche à l'âge de 90 ans. C'est le président Cyril Ramaphosa qui l'annonce, le président qui exprime au nom de tous les Sud-Africains sa profonde tristesse suite au décès de cette figure essentielle de l'histoire sud-africaine dans un communiqué.
La mort de Desmond Tutu, on va y revenir dans nos prochaines éditions à 8h12 sur France Inter, c'est l'heure des sports.
Et le sport, c'est avec vous, Laetitia Bernard. Bonjour.
Bonjour.
Malgré plusieurs reports de matchs à cause du coronavirus, place donc au Boxing Day de rugby aujourd'hui.
Sur le modèle de ce qui se fait avec le foot en Angleterre, effectivement, le championnat de France de top 14 continue pendant les fêtes de fin d'année avec la 13e journée aujourd'hui et demain. Malgré trois reports à cause de trop grand nombre de cas de Covid dans les effectifs, on va bien jouer cet après-midi à 18h Perpignan-Castres et à 21h le classico, pour ainsi dire, entre le Stade Toulouse et le Stade français. Plus de 30 000 spectateurs attendus. Mais l'entraîneur des Parisiens, Gonzalo Quesada, le reconnaît. L'affiche a un peu perdu de sa superbe en raison de la mauvaise passe que traverse le Stade français, seulement 10e du classement.
Ces deux clubs qui ont beaucoup d'histoire, qui se sont retrouvés souvent à être deux des gros clubs. Avant, on démarrait la saison et il fallait juste voir dans quel ordre ils allaient se jouer, mais on connaissait presque les équipes demi-finalistes et souvent c'était les Stades toulousains et les Stades français. Mais notre saison cette année n'est pas permettre certainement de parler d'un grand match. On y va avec beaucoup d'humilité, mais on ne veut pas aller juste être l'équipe qui se met en face pour les spectacles de Noël au stadium. On va essayer d'être au niveau de l'événement et aussi respecter cette affiche.
Stade toulousain, Stade français en rugby, c'est à 21h et d'ici là, les amateurs de foot, eux, vont vibrer en Angleterre au rythme du Boxing Day aujourd'hui. Presque aussi important que le passage du Père Noël là-bas. La journée de Première Ligue est bien maintenue et pourtant, là encore, la situation sanitaire perturbe la donne. Déjà 3 matchs reportés pour aujourd'hui.
On passe maintenant à notre série sur les champions et championnes qui ont marqué le sport français et qui ont déjà les yeux tournés vers Paris 2024.
Et oui, même ceux qui ont déjà connu la gloire aux Jeux Olympiques sont impatients d'être à cet été de 2024 et à Paris, à l'image de Florent Manaudou. Le nageur quadruple médaillé olympique aura 34 ans, mais il se voit à Paris. Simplement, après Tokyo, il a besoin d'une pause. Il reprendra les entraînements intensifs dans quelques mois. Jérôme Val a rencontré un Florent Manaudou apaisé, mais déterminé. Terminé.
Florent Manaudou a eu besoin de souffler, de faire une pause après son défi réussi au Japon et cette médaille d'argent ramenée sur le 50 mètres nage libre.
Je suis plutôt du genre à me ressourcer en faisant d'autres choses, en voyant mes amis, en voyant ma famille. Je fais pas mal de sport dans la semaine, je fais full généralement avec les potes le lundi. Je fais un peu de squash aussi, je fais du basket. Enfin, j'aime beaucoup tous les sports moi, donc j'ai fait un programme assez multisport. je nage aussi un petit peu.
Et justement, le trentenaire a aussi ressenti l'envie de changer de décor. Fini Marseille, il a déménagé à Antibes, changement de club et changement d'entraîneur.
J'ai passé 10 ans de ma vie, je suis arrivé à Marseille, j'étais un gamin ambitieux évidemment, et je suis reparti là il y a un mois et demi de Marseille en étant un homme et en ayant checké presque tous les rêves de gosse que j'avais.
Mais la piscine ne remplit pas une vie, Manodou, l'inclassable, est d'abord un touche-à-tout.
J'aime bien être au contact de gens que je ne vois pas tous les jours aussi, et de discuter avec des très bons dans des domaines qui ne sont pas du tout sportifs, me font évoluer dans ma vie d'homme en fait, et je trouve ça hyper agréable. Donc la musique, le cinéma, des choses comme ça, c'est quelque chose que je pourrais faire de temps en temps.
Ouais. Les Jeux Olympiques de Paris, le dernier défi, voilà un scénario qui plaît déjà à Florent Manodou.
Et voilà Florent Manodou qui va bientôt donc plonger vers Paris 2024.
Et merci Laetitia Bernard.
Dans le journal de Manon Vautier-Chollet, le temps de ce dimanche.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Et ce sera un dimanche souvent couvert, Jean-Pierre Hameau.